Et je passe la parole à Patrick Barillot.
Bon, on ne s'est pas concerté entre les intervenants, mais on a des références communes. Je m'étais au départ donné comme finalité pour cette soirée sur la ségrégation des sexes de commenter la thèse de Lacan qui commence maintenant à nous être assez familière, que l'on trouve dans Encore, affirmant qu'il y a de femmes qu'exclues par la nature des choses, qui est la nature des mots. Alors, Colette Soler, l'ayant beaucoup étudié dans son cours de l'année dernière, j'ai décidé de changer de fusil d'épaule pour aborder le thème différemment, pour ne pas paraphraser. Je vais commencer par revenir sur ce dont il a été beaucoup question concernant la ségrégation urinaire, expression de Lacan employée dans son instance de la lettre, afin de montrer l'incidence du signifiant dans la réalité par-delà sa signification. Alors on l'a évoqué comme s'il s'agissait d'une discrimination sociale des femmes, assignées pour satisfaire leurs besoins les plus naturels en un lieu qui leur est propre. Mais il n'est quand même pas temps qu'il en va de même pour les hommes, contraints de ne fréquenter que l'espace qui s'ouvre sous le signifiant qui les représente. D'ailleurs, nulle revendication, enfin très peu, à ce que cela change, et il suffit de voir l'air de réprobation qui accueille l'homme qui s'aventure dans l'espace des femmes, qui lui est interdit. Avant de matérialiser des espaces distincts, ces deux signifiants différencient les hommes et les femmes en les identifiant a priori comme les détenteurs du phallus pour les uns et pour les autres comme celles qui ne l'ont pas. Premier dommage pour les femmes que d'être privées de ce phallus. Fait de structure, liée à la significantisation du pénis, règle biologique, et à la structure différentielle du signifiant. Cependant, la discrimination, la sexgrégation, comme ce néologisme que j'ai donné pour mon titre, la sexgrégation des femmes, a posteriori de cette première différenciation homme-femme, est bien réelle, et même en recrudescence dans certaines régions du monde ou territoires, sous l'effet conjugué des discours politiques des nouveaux populismes et des radicalismes religieux. C'est là que la thèse de Lacan rend compte de ces exclusions dans le champ social ordonné par le discours. Le sort des femmes serait donc l'exclusion, puisque les mots ne président qu'à la seule jouissance phallique, les femmes sont donc exclues des discours. Leur jouissance autre, non phallique, n'étant associée à aucun signifiant, elle est donc fort close de tout discours établi. Alors je vais laisser les incidences sociales de cette exclusion pour m'interroger sur ce à quoi le psychanalyste a affaire au quotidien dans sa pratique. Celle qui touche au champ clos du désir, c'est-à-dire les rapports homme-femme, non plus dans le social, mais dans l'acte sexuel, où les semblants ne sont pas d'un grand secours. À savoir à ce qui préside que ces deux moitiés ne s'embrouillent pas trop dans la coïtération quand ils y arrivent, comme Lacan s'exprime dans l'étourdi. Ne pas s'embrouiller dans la coïtération, que cela désigne-t-il et pourquoi ne faudrait-il pas s'embrouiller en la matière? Alors, peut-être que je fais sur le pourquoi, c'est que ça touche certainement à la question de la survie de l'espèce par la nécessité de sa reproduction. En ce qui concerne l'embrouille sexuelle, elle me semble être la conséquence, ce que tu as développé, du maintien dans le registre dominé par les identifications de ce qui détermine les rapports homme-femme au niveau de l'acte sexuel et qui ne s'y confond pas. Et je crois que c'est à cette fin, pour dépasser l'identification des sexes, que Lacan met la fonction phallique au chef de l'être ou avoir le phallus. Le nouveau répartitoire sexuel se faisant donc en fonction du mode que chacun choisit d'y faire, argument, choix de jouissance donc, soit tout dans la fonction, soit pas tout. En fait, cela revient à passer des discours qui ordonnent les rapports sociaux entre hommes et femmes, les moitiés, ces deux moitiés, à ce qui relève de la structure qui règle la coïtération puisqu'il n'y a pas de discours du sexe qui l'ordonne. Ne pas s'embrouiller dans la coïtération quand on y arrive marque bien qu'on n'y arrive pas à tout coup. Le comment y arriver, c'est-à-dire parvenir à la jouissance prise dans l'acte sexuel, prise au corps de l'autre, ne peut donc pas s'aborder sans la fonction phallique. D'où vient-elle cette jouissance, alors qu'il n'y a pas de rapport sexuel, et que cette fonction phallique est ce qui y supplée, puisque c'est elle qui assure les relations entre les sexes. C'est ce qu'il s'agit de débrouiller en posant les coordonnées de ce qui opère pour faire couple des jouissances. Du côté de la moitié homme, enfin de la moitié dite homme, avoir le phallus n'est pas suffisant pour jouir du corps d'une femme. Il y faut la castration qui est seconde par rapport à la fonction phallique. Sans le non à la fonction phallique des formules de la sexuation, aucune chance qu'un homme ait la jouissance du corps de la femme, autrement dit lui fasse l'amour, dit Lacan dans Encore. Ce qui n'empêche pas qu'il peut la désirer et lui faire des choses qui ressemblent étonnamment à l'amour, ajoute-t-il. Alors, dans cette thèse, il n'y a pas moyen de s'y retrouver si on ne distingue pas les deux types de castration en jeu dans l'affaire. Il y a la primaire, ce que j'appelle la primaire, celle qui affecte tout être parlant, homme comme femme, et qui donne la jouissance phallique, castrée, incomplète, morcelée, discontinue, comme l'est la structure du signifiant. Et puis il y a celle nécessaire à l'homme, pour jouir du corps d'une femme, castration qui lui soustrait ce phallus. Sinon, de quoi l'homme jouit-il ? Dans ce rapport à une femme, la réponse est qu'il jouit de son organe, parce que précisément la jouissance phallique est l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas à jouir du corps de la femme. Donc, pour y parvenir, il faut la privation du phallus dont il s'est doté, afin de libérer chez lui le désir, lequel l'oriente vers un objet qui répond à sa castration, en l'occurrence ici une femme, objet produit de l'objet A dans le fantasme et par les signifiants de son inconscient. Alors, cliniquement, comment cela se manifeste-t-il ? Pour les hommes qui ne font pas d'une femme un symptôme, ou ceux qui choisissent comme partenaire un autre homme, ou bien la masturbation comme exutoire sexuel, c'est sensible. Mais quels sont ceux qui la désirent, qui lui font des choses qui ressemblent à l'amour comme acte, mais n'en jouissent pas ? J'avoue que je n'ai pas spécialement une réponse très précise, c'est pour ça que je laisse la question ouverte. Mais Lacan nous indique déjà que la jouissance sexuelle prise dans l'acte n'est pas réglée par le désir. Alors du côté de l'autre moitié, il serait évidemment illusoire de chercher une condition qui vaille pour toutes les femmes à la jouissance prise par elles avec le corps d'un homme, puisqu'il n'y a pas de toutes les femmes. Cependant, Lacan nous donne des indications sur ce qui opère du désir dans leur choix d'objet et la jouissance que vise ce désir. En 1960, dans son propos directif pour un congrès sur la sexualité féminine, il insiste sur la dissymétrie quant aux modalités du choix d'objet qui diffèrent. C'est des modalités de toute la distance qui sépare la forme fétichiste de la forme érotomaniale de l'amour. Pour l'homme, on a vu que l'objet est choisi sur l'axe du désir, c'est la voie fétichiste, comme substitut à l'objet petit a, ce pourquoi il en fait un tenant du désir. Du côté femme, le choix se fait sur l'axe de l'amour. Pour la part de sa jouissance orientée phalliquement, elle trouve le signifiant de son désir dans le corps de l'homme à qui s'adresse sa demande d'amour et dont elle chérit les attributs, pour reprendre des formules qui sont dans la signification du phallus. Elles seront nommées les appelants du sexe. L'autre part, celle de sa jouissance supplémentaire, est en rapport avec ce lieu dit S de Grand Tabaret. Une question à ce sujet. Par rapport à cette autre jouissance, est-elle sans le concours d'un homme, comme on peut le lire ? Il y a certes des manifestations de cette autre jouissance avec certains mystiques, ça a été très développé, mais ce à quoi nous avons affaire dans notre clinique, c'est une jouissance qui en passe par l'acte sexuel. Pas sans l'homme, en tout cas si on suit ce que Lacan dit de ce que à quoi peut servir de mieux un homme pour une femme dont il veut jouir, à savoir qu'au-delà de satisfaire à l'exigence de l'amour, c'est de lui rendre cette jouissance sienne qui ne la fait pas toute à lui. Il me semble donc que l'étourdi réaffirme donc cette prédominance de l'exigence de l'amour. Alors, c'est là que je vais amener mon interrogation. Ces considérations qui font que pour une femme, il y a conjonction du désir, de l'amour et de la jouissance sur un même homme, sont-elles toujours autant d'actualité ? Cette conjonction est-elle toujours aussi valable, aussi généralisable depuis l'émancipation féminine sur le plan de la sexualité ? Aujourd'hui, la différence entre amour et jouissance est très courante, et cela de façon assez précoce, souvent dès l'adolescence. Est-ce donc toujours autant l'amour qui préside au choix d'objet ? Il est évident que de plus en plus de femmes se choisissent des partenaires comme objet pour la jouissance sans que l'amour n'entre en jeu. Ne serait-ce pas là la mise au jour de ce dédoublement entre l'autre de l'amour et celui du désir, présent aussi chez l'homme, que Lacan signalait déjà dans la signification du phallus, mais masqué, donc dédoublement masqué jusqu'alors, et qu'il reprendra sous le terme de duplicité dans ses propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine. La clinique le montre, et le développement de certaines applications de rencontres confirme cette tendance. J'adopte un mec, où les hommes sont traités comme des objets de consommation sexuelle à mettre dans son caddie, l'illustre assez bien, comme l'application concurrente de Tinder, s'appelle Bumble, où ce sont les femmes qui sont à la manœuvre. Plus généralement, les femmes hésitent beaucoup moins à dédoubler leur objet d'investissement libidinal de façon centrifuge, comme le dit Lacan pour les hommes. L'amour avec son mari, parfois le père de ses enfants, et la sexualité en dehors avec un autre. Mais quand même, je me demande si la demande d'amour n'est pas malgré tout en embuscade, car comme le résumait fort bien une femme adepte des sites de rencontres, qui disait la chose suivante, tu vas sur Tinder pour baiser et tu tombes amoureuse, tu vas sur Mythique pour trouver l'amour et tu te retrouves dans un plan cul. C'est beaucoup de choses. Seulement, cette femme qui s'exprime ainsi dans une forme, disons, contemporaine du malentendu entre les sexes est une déçue de l'amour. Donc la question que je me suis posée, mais les autres qui ne le sont pas, que disent-elles ? Je vous remercie.